Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 15 septembre 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Accueille encore pour l'instant le supplément week-end qui va débuter tout de suite avec l'actu BD, cinéma, DVD, TV et mortuaire.
Et suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires, de l'infirmerie et des radios X, etc. Quelques fractures et quelques molaires sur le champ de bataille. Et enfin, toute la journée, FMR est en direct du festival de rue de Ramonville. On en reparlera tout de suite après ça. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Ma foi, le supplément week-end est encore sur FMR ?
Eh oui, toujours.
Toujours ?
Mais peut-être pas pour l'éternité.
Ah, je me disais aussi. J'espère que tu vas bien.
Ah, impec, ouais. Crevé, mais ça va.
Ouais, moi j'ai franchement une actualité débordante en ce moment. C'est tombé comme des mouches. Il y a pas mal de bandes dessinées, évidemment, c'est la rentrée littéraire. Et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent sur Toulouse, donc on ne peut pas passer à côté. Donc vous inquiétez pas, aujourd'hui ça va un peu cartonner.
L'histoire que vous allez voir repose sur des événements réels. Les noms ont été changés afin de protéger les personnes innocentes.
Jimmy Tanner, The Year of the Apocalypse. Tout renseignement sur le site web supplementweekend.tk.
Yeah.
Thomas, aujourd'hui pour le supplément week-end, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais il se passe aussi des choses en dehors.
En dehors de cette... nos studios, oui.
En dehors de nos studios, puisque on va sortir à radio. Bonjour Kinou.
Bonjour, bonjour Xavier, ça va?
Bah oui, très bien, écoute, rien à redire, il fait beau, il fait chaud, et puis...
écoutez la radio.
Ouais, mais ça, tu vois, c'était une expression d'une regrettée fille qui a disparu.
Eh oui.
On en parlera tout à l'heure.
Morte apparemment
d'un cancer. On en parlera tout à l'heure. Kinou, tu seras en direct avec Monique Blanquet notamment et je crois Suzanne Tafani.
Non, Suzanne ne sera pas là, mais en fait avec Monique Blanquet, Mouloud, Pete, en fait toute une petite équipe de radio éphémère, on sera sur le festival de rue de Ramonville tout à l'heure en direct à partir de 15h, effectivement.
Donc, festival de rue de Ramonville qui a acquis quand même de long terme sa notoriété. Elle est plus quand même que non volée, je vais dire, loin de là. J'ai cru voir d'ailleurs que dans les événements de la journée, il y avait le théâtre c'est allemand, j'y arriverai pas. Le théâtre de l'unité, les cubitanistes, l'illustre famille Buritani.
C'est pas grave, il s'est couché tard.
Voilà.
Oui, mais moi aussi, hein, c'est pas grave. C'est pour ça que je préfère lui essayer de le dire parce que Xavier, tu parles très bien.
Donc quand même, je crois qu'ils avaient fait d'ailleurs il y a quelques années à Avignon et on avait beaucoup entendu parler justement à cette occasion-là. Opeus, Tango Sumo et Venadal, les commandos percus et Trans Express, commando percus, ça c'est plus de la musique et de la pyrotechnie.
Absolument.
Voilà.
C'est une création d'ailleurs.
Alors, oui, vas-y, pardon.
Non, et le Tango Sumo et Vendaval aussi, c'est une création pour le festival.
D'accord. Ça commence sérieusement à bien tourner. La plupart des événements là que j'ai parlé sont... certains sont avec une participation financière, mais il y en a d'autres qui ont... Il y a une très grande majorité quand même de spectacles de rue qui sont en libre accès, qui se déroulent dans le public.
Absolument, en fait il y a 3 spectacles payants et puis le reste ce sont des spectacles gratuits, des spectacles de rue, hein. C'est un festival de rue, donc avec l'expression des arts de la rue et donc avec l'échange direct et cet aspect de gratuité et d'échange surtout entre le spectateur et le performeur, quoi, en fait. Donc l'idée de gratuité reste essentielle dans ce festival. Certains artistes travaillent en milieu clos, donc certains, effectivement, de ces spectacles sont payants. Mais le prix maximum, c'est même pas 8 euros. Donc, c'est quand même pas non plus très très cher. Je crois que c'est moins cher qu'une place de cinéma.
Ouais, surtout que surtout que ça reste relativement populaire. Ça fait penser à un autre lieu de spectacle qui va se remonter à Ramonville et qui faisait un point d'honneur à avoir des prix accessibles en entrée. Ça, je ne sais pas si on va en parler prochainement sur FMR, mais ce sera donc le 21 septembre.
Peut-être, oui.
Voilà. on n'a aucune info officielle. Voilà,
hein. Voilà, non, c'est un peu bon. Faut
on a des oui dire, des on dit, voilà, des à peu près. Bref, pas mal de bruit, mais avec Hervé, on s'en attend pas à moi. Qu'est-ce qui sera. Qui c'est que vous allez recevoir tout à l'heure à partir de 15h? Qu'est-ce qu'on va entendre?
Tout à l'heure, donc en fait, on est en plateau direct de 15h à 18h. Alors, direct, je vais dire, c'est pas toujours tout à fait vrai, puisqu'on a enregistré déjà des choses hier soir lors de l'inauguration. Donc ce seront des plateaux avec des petits débats autour de la culture et de l'aménagement du territoire autour de la culture. Donc dans un premier temps avec des élus et des acteurs de la vie locale, des élus locaux, donc le maire de Ramonville, les partenaires du festival qui sont le SICOVAL, la région et le département. Mmh. Donc là, dans le premier temps de notre plateau, on parlera un peu, oui, c'est ça, de comment fonctionne un festival. On va pas essayer de voir uniquement l'aspect financier, mais enfin de ce qu'amène un festival, comment ça fonctionne et comment on peut arriver à faire ce genre de festival en banlieue toulousaine, enfin dans une ville de la périphérie toulousaine. Ensuite, effectivement, sur le plateau, nous aurons quelques artistes qui vont jouer aujourd'hui et qui ont joué hier, tu en as parlé tout à l'heure. Donc on aura le théâtre groupe qui a joué hier soir la Jurassienne de réparation. On aura le théâtre de l'Unité, donc, qui joue en quelque chose de très très rigolo, qui s'appelle Princesse Limousine, un hommage à ce qu'ils avaient fait en Avignon, sur où ils parlaient de deux chevaux plutôt. Nous aurons peut-être, là c'est pas sûr, mais l'illustre famille Burattini, nous aurons Christa, nous aurons les commandos percus, j'espère bien, et nous aurons aussi Transexpress. Alors nous aurons des Catalans qui nous viennent, en fait il y a le plateau Via, c'est un voyage d'intérêt artistique dans le cadre de l'Eurorégion Midi-Pyrénées Méditerranée, quoi, en fait, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, en fait c'est Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Catalogne et Aragon je crois. Donc en fait c'est un plateau Via avec des échanges d'artistes qui est là, les festivals de Ramonville, La Belle Rue en Languedoc-Roussillon et Esquena pour les Nous à Barcelone, qui échangent des compagnies et des plateaux. Et donc je pense que nous pourrons avoir la Comica de Barcelone, en fait, qui vont jouer la Llum del Vi, et c'est un théâtre d'ombre, de spectacle, un spectacle combiné en live, en image, avec des sons, et tout ça à partir de cette de vigne et de vin. C'est très drôle, hein. On va sortir de là un peu fou. On n'en sait rien. Voilà. Et donc, après, on espère avoir aussi d'autres artistes, hein. On n'aura peut-être pas beaucoup de temps en 2 heures, pour parler tout le monde, mais on essaiera de faire parler au maximum tous ces gens qui jouent dans la rue et qui sont pas seulement des amuseurs publics, mais qui sont aussi des gens qui se questionnent sur le monde et sur ce que l'on doit voir de notre monde et qui le décodent un peu aussi.
Alors si les gens vont, pour ceux qui nous écoutent en direct, si les gens vont à Ramonville, si nos auditeurs vont à Ramonville, où c'est qu'ils peuvent retrouver le studio de la radio ?
Le studio de la radio est en plein air, en public, donc ils peuvent venir, et c'est place Jean Jaurès, juste à côté du centre culturel, juste à côté du cinéma de Ramonville, en plein centre de Ramonville,
au cœur.
C'est juste à côté de l'accueil du festival.
D'accord. Bah ok. Bon, on passera peut-être tout à l'heure, hein, vous voir avec des hot dogs et puis je sais pas, peut-être des parapluies, tiens, s'il pleut. Voilà.
Mais non, mais malheureusement, il ne pleut pas cette saison, c'est terrible.
Malheureusement, mais tout se perd.
Mais oui, tout se perd, c'est horrible.
Bon bah Kinou, amuse-toi bien.
Merci beaucoup et puis bonne continuation et à tout à l'heure à 15h.
À tout à l'heure, à plus.
Ciao.
Ciao. Que vous retrouverez tout à l'heure en direct, donc à partir de 15h. Après, ça c'est du sport. Bonjour du sport. Faut pas les laisser là, les gamins, comme
bonjour.
Ça.
C'est
la rentrée, vous savez, il faut les tenir un peu, faut les triquer. Tu vas bien ?
Ça va, ça va.
Magnifique, on va pouvoir continuer avec la disparition d'un célèbre scénariste.
Maravelge.
Avec la disparition d'un célèbre scénariste de bande dessinée. Non, pardon, excuse-moi, je confonds avec son homonyme, qui est un pseudo d'ailleurs.
Ouais.
Voilà.
Alix.
Au théâtre de l'Empire. Elle était facile. D'accord. Non, c'est un peu trop intello, un peu trop amé.
Ouais, non, là, c'est...
Comme l'écrivait d'ailleurs Daniel Schlederman, c'est dommage parce que c'était le dernier humoriste intello de la télévision. Tous les autres ont fait soit commerce, soit maths, soit compta. Que ce soit Arthur et tous les autres. Mais ça, vous le verrez sur le site de Arrêt sur Image. On en parlera tout à l'heure.
Bon, d'accord, ok. Bah oui, j'allais me lancer là.
Mais non, mais je plante le programme. Thomas, lui, il vous promet du cul, du porno, du qui baise et qui... On voit bien, bref, en clair, on va encore avoir des
alertes.
Ouais, de ce genre.
Non, c'est pas celle-là. Voilà.
Mais ça, c'est tout à l'heure. En attendant, on va passer dans la bande dessinée avec quelqu'un que l'on suit beaucoup à la radio parce que tout simplement, il a souvent orbité autour et c'est un artiste complet. Frédéric,
il habite pas loin.
C'est un gars de chez nous, quoi.
Oh, oui. Thank you. Bézian est un artiste complet, c'est un réalisateur de courts-métrages, acteur, musicien. Il a interprété au piano des improvisations autour du cabinet Caligari et, l'année dernière à la Cinémathèque de Toulouse. Il fait plein de choses, mais c'est avant tout un illustrateur, un dessinateur de bande dessinée plutôt talentueux. Son nouveau one-shot s'appelle Les Garde-Fous et vient de sortir chez Delcourt en histoire complète. Une demeure complètement isolée, un vrai nid d'aigle en plein milieu d'un bois de pins, assis sur la rive d'un lac mort. Une maison aux lignes épurées, élancée, droite, immense, dans un style futuriste tel que se l'imaginaient les architectes américains dans les années 1950. On imagine l'intérieur design, propre, tout intégré, avec luxe, donnant l'impression d'un huis clos au milieu d'une campagne environnante qui semble après tout bien morne à l'heure de la télé par satellite et de l'internet. Cette demeure d'exception est celle de l'éditeur Boris Lentz. Et il y fête ce soir le nouvel opus d'une de ses romancières à succès, un petit bout de femme qui imagine des meurtres particulièrement ignobles. Si seulement ces meurtres n'avaient pas quitté leur support de papier pour faire de vraies victimes, de chair et de sang. Le tueur Bonne commet des actes d'une choquante atrocité dans de grandes villes d'Europe, mais il semblerait se rapprocher dans une spirale infernale. Boris, un éditeur avisé, a invité dans sa demeure isolée le tout Paris des écrivains, des chroniqueurs littéraires. Et ce soir, tout le monde ne glose que des chiffres de vente, de la rentrée littéraire. Bon, après tout, qu'est-ce que c'est qu'un bon auteur, sinon que celui des chiffres de vente et son exposition à la télévision. Bref, il n'est que vaguement question de belles lettres et plutôt d'apparence, jusqu'à l'apparition impromptue de l'inspecteur de police Fix, qui souhaite rencontrer le maître des lieux. La cohue du gratin est en partie, ne reste dans la maison que Boris, qui va enfin jouir de quelques jours de liberté par rapport à son travail. Sa femme Alice et son beau-père, critique musical. Mais la question est, à vivre dans leur superbe isolement, ne risque-t-il pas d'y rencontrer des gens bien peu fréquentables? En tout cas pas du genre à hanter les salons du Faubourg Saint-Honoré. Et après tout, la visite de l'agréable, peu agréable de l'inspecteur Fix n'est-elle pas de mauvais augure quand il annonce qu'il a la certitude que la prochaine victime du tueur Bonne sera Alice? Il y a le graphisme quasi impressionniste de Frédéric Bézian, il y a un certain goût pour un huis clos ouvert, tel que dans Chien Rouge, Chien Noir chez PMJ Édition, ou pour les grandes maisons où se terrent des dynasties maudites attendant d'être éteintes, telles que la trilogie Adam Sarlacc aux humanoïdes associés. Il y a aussi l'élégance de l'écriture qui demande de son temps pour y rentrer, et une immense culture qui lui permet de jouer aisément des références. Un one-shot dramatique, une ambiance latente, où l'eau qui dort pourrait se muer sous la tempête. Frédéric Bézian, Les Garde-Fous, le one-shot vient de sortir chez Delcourt, et l'auteur sera en dédicace vendredi prochain à partir de 15h à la librairie Album rue Romiguère. Thomas, peut-être tu as quelque chose à dire?
Non.
Sur la carrière de Bézian en général, sur... Moi je trouve que quand même sur le graphisme, les regards sont beaucoup beaucoup moins torturés que les précédents tomes.
Moi je connais pas assez, donc j'avais acheté Adam Sarlacc et je l'ai toujours pas fini. Après ça se voit qu'il a dû concevoir sa maison en 3D avant de le... Sur son logiciel, tiens, je voudrais cette vue-là, et parce que en plus dans le dossier de presse, c'est marrant parce qu'il y a une...
Il y a une reconstitution 3D, oui.
Voilà, une image complètement pixelisée de la maison. Voilà.
Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne lecture. C'est quelque chose qui est assez intriguant par les aplats de couleurs, par le côté minimaliste. On a l'impression, en fait, de se retrouver vers certaines BD des années 50 ou qui se voulaient des années 50, comme ça y est, j'ai oublié. Ça me reviendra pas dans l'immédiat. Enfin bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une assez intéressant à lire et assez angoissant. Bien amené, en tout cas. We'll be right back. midi 20 dans le supplément week-end. Je tiens à rappeler d'ailleurs que toutes nos chroniques sont écrites sur le site internet de l'émission. Et que, afin de vous être plus agréable et plus facile à retrouver, eh ben, vous pouvez taper sur votre navigateur l'adresse supplément week-end sans accent ni tiré ni espace .tk. TK, alors c'est, je vous explique, c'est une petite nation du rugby immergée quelque part dans l'océan Pacifique, et ça n'a rien à voir avec le superbe t-shirt de Nouvelle-Zélande qu'aborde frénétiquement et uniquement par envie d'esprit de contradiction du sport, qui fera moi le malin tout à l'heure. Je pense que la BD suivante va beaucoup te plaire. Pierre Weiss au scénario, Christophe Alves au dessin, Malgré et l'affaire Saint-Poacre. C'est chez Robert Laffont BD. Robert Laffont se lance dans la bande dessinée et a foutu un gros budget, environ 600 000 euros pour se lancer dans la bande dessinée. Et là, il y a eu deux livraisons qui sont intéressantes quand même. Pierre Weiss est un régulier de la parodie, après Backup Street, où il décapait la légende de Sherlock Holmes, ou Francis and Philip, racontant les aventures peu glorieuses pour le duo Black et Mortimer. Eh ben, c'est cette fois-ci un monument de policier de notre côté de la Manche auquel il s'attaque. Le commissaire Maigret, célèbre personnage, s'il en est, pardon, excusez-moi, de si mélan. Et faut reconnaître quand même que ni l'interprétation de Jean Gabin, capable quand même de belles envolées vernaculaires, de Jean Richard, pourtant clown professionnel, ou de Bruno Kremer, à la verrue ressemblant spectaculairement à un gros nez rouge mais mis de traviole, n'avait de quoi faire décrisper le célèbre commissaire têteur de pipe. Pour son coup, Weiss s'est assuré de la complicité d'Alves, avec qui il avait déjà massacré Harry Potter dans Harry Cover, un lourd casier dans ce crime de lèse qu'est des orfèvres. Le commissaire Malgré a sérieusement besoin de vacances. Son équipe de terrain est particulièrement peu habile, sa vie conjugale frise les températures du Grand Nord, et sa promesse concernant les boissons alcoolisées commence à légèrement le peser. Et voici parti avec sa femme pour quelques jours de détente dans le riant village de Saint-Poacre, lieu de son enfance, de ses parents et ceux de sa tendre moitié. Hélas, l'âge n'a pas réellement émoussé son incroyable sex appeal. La moindre de ses ex-conquêtes lui saute dessus, si possible, à un moment techniquement inconfortable. Ses beaux-parents châtelains n'ont jamais vu en lui qu'un beau parti, puisqu'il est le fils de leur régisseur, et pire que tout, il prend involontairement du travail pendant ses vacances. Une affaire d'accident mortel à répétition et un fantôme enterrait le château. Je dois avouer que connaissant plus ou moins les romans et de Georges Simenon et fan des deux séries télé, j'en attendais beaucoup plus. Surtout connaissant le casier judiciaire des deux auteurs, dont je ne peux qu'admirer le travail de pasticheur en réunion. Hélas, j'ai trouvé l'album en dessous de Backer Street ou de Francis and Philip, un sentiment qui semble partagé par l'éditeur. Celui-ci s'est senti obligé de mettre en couverture un tampon, poum, parodie, comme d'autres mettent, vous savez, dans les sitcoms des rires enregistrés. Le premier tome est drôle, mais peut mieux faire quand on connaît la massacrographie des auteurs. Bref, on attend la récidive pour pouvoir juger de la peine planchée, et ça, sérieusement, eh ben, un autre grand regret. Pierre Weiss, Christophe Alves, Malgré et l'affaire Saint-Poac, c'est chez Robert Laffont, et vous pouvez pas le manquer, il y a un tampon parodie dessus. Voilà. Du sport, lui, il feuillette ça en connaisseur, là, sur la musique de Michel Magne.
Non, j'aime bien le moment où il arrive chez lui et puis son père qui a un vieux pecno et tout en train de faire pousser les plans de chambre.
Mais c'est illégal. Tu vas pas me dénoncer, fils ingrat.
On est bien obligé de se débrouiller si on veut tenir le coup, il dit.
Thank you.
On continue avec littéralement autre chose et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tragique. Christophe Chabouté, qui est un habitué des one-shoots, vient d'adapter une nouvelle de Jack London, Construire un feu. Et ça vient de sortir chez Vent d'Ouest, en grand format en couleur, hein, comme pour les deux autres BD. Et... bon, allez, ça se passe en Alaska, en pleine fièvre de l'or, à l'aube du XXe siècle. Bon, allez, vous connaissez au moins le Charlie Chaplin, la ruée vers l'or, justement, qui s'y passe à ce moment-là.
Et l'autre Jack London, que tout le monde connaît, hein, l'appel de la forêt.
De forêt, exactement. Et qui, là aussi, ben, fait intervenir un canidé. On dit qu'il n'y a qu'à se baisser dans ces montagnes pour trouver les précieuses pépites. Oui, mais on est proche du pôle Nord, très proche, et dans une région particulièrement hostile. Il n'est pas rare qu'en plein hiver, il fasse moins de 30. Et seuls les plus téméraires se lancent dans la traversée de la vallée du Yukon par un temps aussi froid, surtout à pied. Le narrateur est le chien Husky accompagnant un de ses hommes. Et lui, il sait qu'il faut être fou pour tenter cette traversée quand il fait largement en dessous de moins 50 degrés Fahrenheit. Mais l'homme a un avantage. Il sait construire un feu comme on construit sa vie. Et c'est cette chaleur qu'il sait construire qu'il peut le sauver. Là où l'animal n'a que sa fourrure, l'homme a voulu rallier son camp de la rivière Klondike en une journée, mais heureusement, il a des allumettes. Une marche forcée dans le grand désert froid, qui n'est peut-être pas une très bonne idée à moins 30, mais carrément suicidaire quand il fait encore plus froid. Une dure leçon pour l'homme qui avait ri devant les mises en garde. Le chien décrit ce qui va être l'agonie de ce forcené, vaincu par les éléments les plus hostiles de la planète, dans un silence angoissant. Christophe Chabouté nous offre une adaptation léchée de cette aventure insensée. On sent le froid qui rengourre les membres, qui paralyse et insensibilise les extrémités, fait durcir la barbe, fait claquer la salive au vent. L'air froid qui est l'ennemi dans un décor au blanc immaculé. Et cet homme rude qui mène la vie dure à son chien, à son corps, à sa propre vie. Il y a peu à résumer sur la nouvelle d'origine, issue des nouvelles du Klondike, sinon qu'elle parle de la souffrance, de soumission et de mort. Le prix terrible, finalement, pour quelques grammes d'or. Christophe Chabouté, d'après Jack London, Construire un feu, c'est chez Vent d'Ouest.
May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. May there be peace and love and perfection throughout all creation. May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God.
Je vous dis pas, il y a eu un outing complet du sport à avouer que oui, des fois il aimait bien la littérature quand elle a pratiquement un siècle, vieilli comme du bon whisky.
Ah, même plus, hein.
Tiens, c'est vrai que ça fait partie du programme de collège, Construire un feu, comme nouvelle sur la difficulté, sur l'écriture assez compliquée, etc. Mais en attendant, c'est le supplément week-end. Non, vous nous retrouvez les chroniques écrites et tout ça sur supplementweekend.tk. Vous pouvez poser des questions sur Jack London, du sport, ouais, à Thomas sur les films de Hong Kong et à moi sur la bande dessinée et réécouter pratiquement toutes nos anciennes émissions et tout le reste. Supplément week-end, sans espace, sans accent, sans tirer, .tk. Sur nos diffusions, sur Radio FMR, sur les pré-écoutes et tout le reste. En attendant, de suite, c'est la campagne publicitaire, donc la régie pub va m'interrompre.
Le 22 septembre, ça va être la méga fête rue Alsace. Des bandasses partout, un concert gratuit.
Du théâtre de rue, des surprises dans les magasins.
Et plein de jeux rigolos pour nous.
Le 22 septembre, fêtons tous ensemble la nouvelle rue Alsace.
Mairie de Toulouse, www.toulouse.fr. Éphémère.
Eh ben Rascal, il a fait des efforts pour faire des publicités pour la radio.
Non, je voulais juste revenir sur Jack London parce que quand tu auras fini de rire.
Désolé.
Parce que bon, on a évoqué avant la BD Construire un feu, tirée d'une nouvelle, les nouvelles du Klondike. C'est dans toute la série des bouquins sur le Grand Nord que Jack London a écrit, dont L'appel de la forêt est le plus connu, hein, bien sûr, hein, parce que ouais. c'est le livre qu'on te fait lire, Bibliothèque verte et tout le bordel. Mais Jack London est un auteur qui a écrit tranquille une quarantaine de livres. Tranquille, mais sur différents sujets liés en fait à ce qu'a été sa vie propre, c'est-à-dire très jeune, il s'embarque sur les steamers, c'est-à-dire les bateaux qui parcouraient d'un continent à l'autre, qui passaient par le, à l'époque il n'y avait pas le canal du Panama, donc ils étaient obligés de faire le tour par le Cap Horn et tout,
par le Cap de Bonne-Espérance
et par le Cap Horn aussi, quoi, hein, continent américain. Et il raconte tout ça dans plein d'histoires, bien sûr. Alors il y a toute la période de l'Alaska, il y a également plein d'autres histoires. C'est vraiment très très bien, c'est super bien écrit, c'est génial. Faut lire du Jack London, hein, sans problème. Et on peut commencer à lire du Jack London en prenant un bouquin comme ça par hasard, il y a pas de problème, c'est vraiment génial.
D'accord. Thomas.
Oui.
Non. C'est une trilogie dans le top 5 ?
Eh ben oui, on va faire on va continuer sur la sur le même schéma en fait. Parce qu'on essaie de fidéliser, on fait un peu les mêmes rubriques au fur et à mesure. Donc on va je suis tombé sur le net sur toujours sur le site DVDrama, donc nous allons continuer sur les petits top 5 consacrés au cinéma d'action, car après le top 5 des gunfights, après le top 5 des duels inoubliables de l'histoire du cinéma, voici que DVDrama se met à faire un top 5 sur les meilleures scènes d'action au cinéma. Alors c'est un top 5 qui a été établi par chacun des membres de la rédaction, donc on a un top 30 des films, et j'ai sélectionné parmi ce top 30 5 scènes d'action. Alors j'ai volontairement mis de côté les gunfights, il n'y en aura pas. Il fallait aussi que les réponses soient faciles, donc finalement j'en ai mis. Mais ce ne sont pas des... dans cette scène d'action en question, il y aura des flingues. Voilà, parce que sur certains, il y aura des flingues.
Donc en fait, il y en avait 30 sélectionnés sur un site spécialisé dans le cinéma. Voilà. Plutôt cinéma d'action d'ailleurs.
Chacun a donné son top 5, enfin, un petit peu.
Et donc Thomas a compilé tout ça, voilà, a fait une sélection.
Il n'y a pas de film asiatique, et ce sont obligés des films que vous avez vus.
D'accord. Donc qui dit sélection dit top.
Et qui dit top dit 5.
Et qui dit 5 dit...
Le top 5. Numéro 5.
Donc je vous donne des indices et vous devez deviner en premier. Attention, main sur le buzzer. Donc une scène d'action, je veux le film. Hein. Alors c'est avec un papa ventripotent, sa femme est élastique.
Mais
non. Oui.
Non, j'allais dire une connerie.
Vas-y, dis toujours.
Les 4 fantastiques.
Non. La femme est élastique, ils ont deux gamins qui participent à la scène d'action, et pendant ce temps, le petit dernier...
Oui. Les Indestructibles.
Bravo! T'étais pas loin, Xavier.
Numéro 4.
Alors, ça se passe dans un métro, il y a un mec au bout du fil qui dit Simon Says, et c'est avec Samuel Jackson.
Ah si, on l'a dit, Die Hard 3.
Bravo!
Numéro 3.
Alors, il y a un avion de chasse dans cette scène, dans ce film, avec un terroriste viré, accroché au missile. Et le pilote de l'avion de chasse a caché à sa femme son véritable job pendant 14 ans.
Facile.
Top Gun.
Non, c'est avec le gouverneur de Californie. Attends.
True Lies.
Voilà.
Numéro 2.
Alors, c'est mise en scène par le réalisateur de Munich et Amistad, et c'est une scène d'action avec Tom Hanks qui porte un casque.
Backfire.
Il faut sauver le soldat.
Voilà.
Ah non, Ryan. Non, je me suis trompé, ok.
Numéro 1.
Donc c'est un combat d'hommes à un contre un dans la jungle. Il est l'unique survivant d'un commando décimé parce que les membres étaient armés.
Predator.
Voilà.
Ah oui.
Donc du sport emporte haut la main le top 5 sur les meilleures scènes d'action du cinéma.
Un top 5 qui a été établi à partir du classement du site DVDrama.
Complètement subjectif, évidemment.
Voilà.
Dont 2 sur 5 avec Schwarzenegger en plus.
Oui, oui. Et 2 sur 5, mais non, j'avais retenu un Max Tiernan supplémentaire, mais derrière, bon, il y en avait déjà le 3.
Ouais, bien sûr.
On a fait un top 5 sur Die Hard en plus. Enfin bon, littéralement autre chose, puisque donc on entame la partie cinémouche. La rubrique DVD vous est présentée en Dolby Mono Surround THX par Thomas.
Alors aujourd'hui on a du cul. Du sport en avait parlé dans une émission mais hors antenne, donc vous n'avez pas eu la primeur de réflexion sur le film. Il s'agit de Short Bus, film que tu avais chroniqué à l'occasion de sa sortie au cinéma et qui est sorti en DVD il y a quelques temps. Un film de John Cameron Mitchell avec quasiment que des acteurs amateurs. Qui débutait ou qui était un petit peu connu avant, qui est le cas de l'héroïne qui était une animatrice célèbre au Canada, une animatrice radio. Et voilà, donc c'est que des amateurs et c'est édité chez Back Video. Alors ça raconte quoi? Ça raconte, l'action se passe dans le New York Post 11 septembre et il y a plusieurs personnages effrayés par la solitude et qui se croisent au Short Bus, qui est une sorte de boîte de nuit où on peut faire des partouzes allègrement et on peut faire aussi des rencontres tout à fait sympas. Alors certains y cherchent le pardon.
Qu'est-ce que tu sous-entends sur les partouzes? C'est un peu du sexe à consommer, c'est ça?
Faudrait qu'on fasse des vidéos de ce qui se passe à l'antenne quand même. Parce
je tiens à signaler que ce morceau a été remixé par Laurent Taupin, qui a été le réalisateur de Super Nana. Donc voilà.
Ah d'accord. Voilà. Je savais pas. Donc Sophia est sexologue, elle n'a jamais connu l'orgasme, elle simule depuis des années avec son mari. Jamie et James veulent ouvrir leur couple à un troisième partenaire, ils vont justement aller voir Julia pour lui en parler. Mais ils sont espionnés aussi par Caleb, le voisin, qui a des vues sur Jamie. Donc il y a ensuite aussi Séverine, l'ami de Sophia, qui est adepte des pratiques SM. Et alors tout ce petit monde va se croiser au Short Bus. Donc il va y avoir des rires, des larmes, voilà. Donc c'est un film sympa, mais moi je ne suis pas, si on peut dire ça, je ne suis pas rentré dans le film, puisque soit on accroche au début, soit on n'accroche pas en fait. Donc le film se laisse regarder, c'est super bien parce que il y a les qualités d'un film choral, tu vois que le casting a été fait vraiment dans la bonne humeur, etc. Et puis tu vois qu'il y a vraiment une alchimie entre tout le casting.
C'est le cas de le dire.
Voilà. Alors on dit toujours pour Short Bus, il y a du cul, mais en fait c'est pas que ça en fait, puisque le
c'est un film très adulte hein, avec des scènes de sexe
montrées. Oui, film adulte de sexe forcément.
Simulé. Hein, c'est pas un film porno où c'est un montage, hein, c'est vraiment du sexe, mais
exactement. Et donc en fait c'est pas.
Désolé.
Alors contrairement à beaucoup de productions hollywoodiennes qui font des scènes d'amour, c'est toujours avec des teintes bleutées, de nuit, juste pour épouser
sous des traps.
Les silhouettes, exactement. Ben là, pas du tout, la lumière est super frontale, t'as des gros plans de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils y vont pas par quatre chemins, ils montrent tout. Donc c'est ça qui peut-être buter certaines personnes, mais c'est le ton du film également.
Ouais, c'est également le fait qu'il y ait plus de sexe homosexuel que hétérosexuel dans le film qui peut-être a bloqué certaines personnes à mon avis
Tout à fait. Et après moi je vais chroniquer surtout le DVD aujourd'hui. Et ce qu'on apprend dans le making of, qui est extrêmement intéressant sur le deuxième DVD, c'est que on suit un peu le processus créatif du film, qui est presque aussi presque plus intéressant que le film lui-même, puisque John Cameron Mitchell, il avait fait Hedwig and the Angry Inch en fin 2003, enfin courant de l'année 2003, et juste après il a commencé la recherche de casting pour le film Short Bus. Et sur son site internet il a publié une annonce en disant bon, si vous voulez, bon attention, le film va parler de cul, il y aura du sexe non simulé, donc si vous êtes amateur, si vous voulez voir un peu, si ça vous êtes curieux, envoyez vos CV vidéo. Et là il reçoit à peu près 500 CV vidéo. On le voit aller à la poste avec l'énorme paquet, avec son assistant dans la rue, avec tous les colis avec les cassettes à l'intérieur, et on les voit visionner ces cassettes, alors avec des commentaires à chaud et tout. Tiens, lui il est pas mal, regardez. Alors il y a des extraits des véritables CV vidéo, c'est extrêmement intéressant, puisqu'on voit effectivement dans les autres bonus des films normaux, enfin d'autres films classiques,
les bonus des films américains surtout, c'est plutôt de la promo, oui, de la soupe.
Oui, mais quand il parle des castings et tout, on voit jamais, et là il le montre en fait, donc ça c'est super intéressant. Et on voit ensuite la sélection qui est faite, puisque de ces 500 CV vidéo, il sélectionne à peu près une cinquantaine de candidats, et il fait une projection commune des CV vidéo qui ont été envoyés, et il leur dit: vous avez des fiches, vous dites si avec cette personne c'est il n'y a pas de moyen pour que vous couchiez avec, est-ce qu'il y a peut-être moyen, est-ce que vous pensez vous entendre avec lui, ou alors est-ce que vous vous accrochez carrément. Et donc en fonction des réponses, en fait il contrôle l'alchimie envers les autres. Il sélectionne ensuite les gars qui s'aiment le plus, et ensuite il les confronte dans des scènes de répétition, et il voit un peu comment l'alchimie se crée, etc. Donc on voit vraiment le processus. Et justement, dans les amateurs qui avaient répondu au casting, il y a le cas de Jonathan Cowett, qui avait sorti son film Tarnation il y a un ou deux ans déjà, et qui a la particularité de se filmer depuis l'âge de 10 ans. Et son film, justement, c'était un pot-pourri d'années d'autofilmage. Et d'ailleurs, son film avait été produit par John Cameron Mitchell, le réalisateur de Short Bus. Et donc du coup, il a pas pu le prendre dans son casting, mais il a quand même suivi, parce qu'il était intéressant, le bougre. Donc on voit la sélection au fil du temps, etc. Et puis ensuite on voit la fameuse scène de partouze, on les voit, c'est commenté par le réalisateur et par l'actrice principale. Donc ils décrivent pas vraiment comment il a dirigé les comédiens, etc. Ils disent juste moi j'étais mal à l'aise, mais j'avais promis à l'équipe de participer à cette scène. On le voit donné en train de un peu diriger les acteurs au beau milieu de la scène, et puis il disait j'étais vachement frustré parce que j'avais créé un univers, je pouvais pas rentrer dedans parce que je pensais à 36 000 choses en même temps, j'ai pas pu bander et tout. Et on le voit, il y a un comédien à côté qui lui prend la main et tout, parce qu'il voit qu'il est pas à l'aise et tout. Et puis on voit vraiment l'alchimie parfaite dans cette scène là. Et donc il explique aussi qu'il a tourné d'une traite en fait, pour éviter les plans de coupe, pour éviter de couper l'effet aux comédiens. Et puis on voit vraiment que c'était du sexe non simulé, etc. Donc c'est super intéressant. Et ce documentaire se clôt sur les conférences de presse. Et ça fait le lien parfait avec à la fin, on les voit à Cannes, où ils sont au film comme dans le même processus que le film, dans la chambre d'hôtel, donc ils sont aussi à poil, etc. Youpi. Et dans un autre documentaire du deuxième DVD de bonus, on voit le concert autour du film Short Bus par l'équipe du film, puisqu'ils sont tous artistes, ils savent jouer de la guitare, ils chantent, etc. Et la fameuse chanson qui clôt le film, qui est super bien, avec toute l'équipe du film qui chante en même temps à Cannes. Donc c'est assez sympa, tous ces bonus. On apprend beaucoup au point de vue fabrication de ce film là, et on n'a pas de commentaire du réalisateur, ou alors ça m'a échappé, mais là j'ai pas amené le DVD donc je pourrais pas en être sûr.
C'est con, ça m'aurait vachement intéressé.
Donc le commentaire, c'est, de toute façon il est sur le film 1, donc j'ai regardé surtout les bonus du 2. Donc Short Bus, comme tu disais, du sport, c'est faut savoir que s'il y a beaucoup de relations homosexuelles dans le film, du sexe non simulé, qu'il y a des...
Non, il n'y a pas que ça, hein, de toute façon, quoi. Il faut dire que dans la scène de partout, ce qui est vraiment bien, quoi, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est dirigé. On a vraiment l'impression que c'est une partouze. Bon, bah ok, on y va.
Gonzo.
Vas-y, c'est bon. Non, pas Gonzo, quoi. Ouais. Mélange pas les gens, voyons. Mais c'est vraiment pour cela que, enfin, moi j'ai trouvé ce film vraiment très très bien, hein, de toute façon, quoi. Parce que bon, on a vraiment, ça donne vraiment l'impression d'avoir été filmé à la bonne franquette, tranquille. Les acteurs, les actrices sont là, ils vont à fond. Et c'est vrai que l'alchimie prend, quoi, vraiment, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui prend. C'est pas, il y a pas à aucun moment j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de factice dans le film.
Ça c'est clair,
c'est presque du réel. Bon, c'est un film donc c'est pas du réel, mais c'est vraiment bien. On rentre dedans, c'est vraiment bien quoi. C'est
tout à fait.
Dire, hein, de toute façon.
Oui. Et puis il faut savoir que le réalisateur évidemment a construit son script en fonction des acteurs qu'il avait eu sur le tard.
C'est donc ce qui me semble, c'est que vraiment il a. Enfin ça c'est énorme.
C'est basé sur la personnalité et la chimie entre les comédiens. Voilà, il faut savoir aussi que l'héroïne d'origine coréenne, donc animatrice radio au Canada, et le gouvernement canadien, en apprenant qu'elle allait participer au film Shortbus, a voulu lui interdire la participation au film. Et il y a eu l'intervention de plusieurs artistes comme Moby ou là il y a que son nom qui me vient, mais il y a beaucoup Gus Van Sant, enfin toute cette.
Mais animatrice sur une radio publique ou.
Ah je sais pas, ils l'ont pas mentionné dans les suppléments. Et en tout cas devant l'intervention global de plusieurs artistes, le gouvernement canadien a fait machine arrière et elle a pu participer au film justement. Voilà. Et donc Sport disait dans ce souci d'authenticité, on la voit avoir un orgasme dans le film et elle disait elle avait besoin d'avoir vraiment un orgasme pendant qu'elle tournait la scène pour apporter encore plus de crédibilité à son personnage. Donc voilà. Donc il s'agit
a-t-elle simulé.
Voilà, il s'agit du film Shortbus réalisé par John Cameron Mitchell et c'est édité dans un packaging assez sympa d'ailleurs en DVD chez Back Video.
Supplément week-end sur Radio FMR, midi 47 secondes et 23 minutes. Non, c'est l'inverse.
Hein.
Midi 47 sur Radio FMR en direct. Supplément week-end.tk si vous voulez nous suivre en différé, laissez vos commentaires et tout le reste. Et nous, on laissera des flyers un peu partout en ville, comme ça vous pourrez retrouver l'adresse facilement, aisément. On sait jamais, si jamais on se retrouve à aller ailleurs. En attendant, un petit clin d'œil justement, du coup, à certaines personnes dont on va parler tout de suite. Iggy Pop, extrait de l'album Beat Them Up, Death Is Certain. Iggy Pop, Duffy Sarton. Non, non, ne nous quitte pas de suite. Nous, on a appris plusieurs mauvaises nouvelles. Il y a eu pas mal de gens qui sont partis. Et là, c'est Enflammé qui m'a montré ça ce matin, par hasard. On a... En tout cas, c'est pas encore confirmé par une source qui est très très proche justement, mais donc Super Nana, son vrai nom Catherine Pelletier, qui fut directrice d'agence du Crédit Lyonnais jusqu'à l'âge de 30 ans, serait disparue. Super Nana, son personnage a été créé en 1981 sur Carbon 14, où à l'époque où les radios libres étaient libertaires et trash, où elle a monté une émission dans mon trou. Avec un certain La Fesse, et c'est là où elle a commencé réellement d'ailleurs. Ensuite, Carbon 14 a été évincé de la bande FM en 83. En 88, elle s'est essayée avec à la chanson avec Lâcher les chiens, écrit par Patrick Timsit, s'il vous plaît. Ensuite, elle s'est retrouvée directrice d'antenne de 89 à 91 sur Aligre FM, et ensuite on l'a retrouvée sur Skyrock, où elle faisait Ciel Mon Rock, les Nocturnes notamment, plus après les week-ends, Turlututu avec Laurent Petit-Guillaume, où elle parlait de cul, véritablement, et où elle parlait de la chanson française. C'est la première radio nationale à avoir passé les Fabulous Troubadours, et ben c'est Super Nana, la nuit dans Skyrock, et plein d'autres choses. Donc elle, je lui dois énormément, notamment l'envie de faire une émission de radio qui soit cultivée, intéressante et complètement déjantée. Et je pense notamment à sa cour qu'elle avait, le prince de Hénin, Manu Lévy, princesse Jade et tous les autres. Et là, ben, il se trouvait qu'elle devait revenir cette semaine sur Europe 1 avec Laurent Baffy dans une nouvelle émission qui s'appelle Coloscopie. Et donc, malheureusement, elle nous a quittés jeudi dernier. C'est pas la seule à être disparue de nos écrans radar, bien malheureusement. Puisque Jacques Martin nous a quittés. Du sport, peut-être que tu as quelque chose là-dessus.
Vite fait, alors la life de Jacques Martin, il est découvert dans les débuts des années 60 par l'un des grands découvreurs des talents à la télé, dans le temps où la télé était encore balbutiante, un jeune acteur qui était monté de province pour faire carrière à Paris.
Viré d'abord du casino de Dinard pour avoir dit du mal du grand Charles.
Ouais, un certain Jacques Martin, et il lui met le pied à l'étrier en compagnie d'un autre pote à lui, pote à Jacques Martin, qui était également acteur, un certain Jean-Yann. Et donc, il lui donne les rênes de... ils ont fait deux émissions. La première, je me rappelle pas comment elle s'appelle. La deuxième, c'était 1 plus 1 égale 3.
Sur Radio Luxembourg.
Sur Radio Luxembourg et sur la première chaîne avec à l'époque avec une chaîne en noir et blanc quoi, et où ils déconstruisaient pas mal de choses. Ils avaient construit un espèce d'humour un petit peu cynique, un petit peu grinçant, qui ne collait mais absolument pas avec la bienveillance, avec la quiétude normale de la chaîne de télévision française, qui à l'époque, je le rappelle quand même, dans les années 60, était sous la tutelle du ministre
de l'information,
un certain Alain Perfuit, rappelez-vous. Perfuit, si, qui est passé ministre de l'Intérieur par la suite, c'est pour vous dire. Hein. Et il a fait partie de la charrette des virés en mai 68, d'ailleurs, quoi, Jacques Martin. Ensuite, il est revenu à l'antenne pour l'émission qui s'appelait c'était l'émission du midi, dans laquelle sa co-animatrice faisait ses débuts à la télé, une certaine Danielle Gilbert, qui après bien pris les rênes de cette émission. Hein, midi première, ça s'appelait.
Oui.
Ouais, midi première, exactement quoi. Et Jacques Martin, lui, on l'a plus vu, et il s'est vraiment fait une réputation, à la télé, par sa fameuse émission, Le Petit Rapporteur. Le Petit Rapporteur, c'est dans les années 60, fin des années
74.
70.
Hein.
Non, 78-79.
Il y a eu plusieurs saisons.
Non. Il y a eu une saison et demie, en fait. Hein.
Je me trompe complètement dans les fiches.
Il
n'y
en a pas eu tellement que ça, en fait, du Petit Rapporteur. Ça a tenu 18 mois. En fait, il y a eu une petite période de flottement, puis c'est revenu sous un autre nom avec quelques chroniqueurs différents, et ça s'appelait La Petite Lorgnette. C'est peut-être ces versions que les gens dont les gens se rapportent se rappellent le plus, parce que Le Petit Rapporteur, c'était quand même diffusé le dimanche à midi ou à 13h, je crois.
Alors, au départ, le petit rapporteur, c'était sur la première chaîne, puis la petite lorgnette s'est passée sur la deuxième chaîne. Et c'est à partir de là que Jacques Martin est pratiquement resté fidèle jusqu'à la fin de sa carrière télévisuelle à la deuxième chaîne, Antenne 2, France 2, appelez-la comme vous voulez.
Comment tu t'appelles ?
Mais on peut également dire que c'est grâce à lui qu'on a pu découvrir des gens comme Daniel Prévost, comme Desproges, hein, les interviews de Desproges et de Prévost, bon ben ça restera un monument.
Sur Jean et Dernalier quand ils sont en train de s'engueuler, c'est immense.
Ah, oui, non, mais ça restera un moment de télé, des moments de télé assez inégalés de toute façon. Hein, et bon, Desproges en lui-même, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein, c'est un des très grands humoristes de tout court. Jacques Martin après s'est un petit peu dévoyé dans l'école des fans, hein. L'école des fans c'est début 80 aux alentours de 82-83 avec des découvertes inénarrables. Vanessa Paradis, rappelez-vous, celle-là on va la voir en boucle sans problème et ou celle aussi où, ah non mais mon papa il est pas là, il est avec ma tante la petite fille qui dit non c'est pas mon papa, c'est moi,
c'est celui qui vient à la maison quand papa est pas là,
voilà. Des petits trucs comme ça, quoi. Bref, on aime un petit peu moins maintenant, hein. C'est vrai que.
Et puis c'est dommage parce que c'est Incroyable mais vrai ou l'école des fans, ça a pas mal ringardisé, un peu trop rangé, alors qu'il était capable de faire des trucs,
ouais, c'est ça,
mais impensables. Quand vous pensez à ce qu'il faisait dans Un siphon fonfon.
Maryse, regardez bien ceci. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est un mini bigoudi ?
Non, Marie. Regardez bien. Quoi d'autre ?
Je sais pas, un mini rouleau à pâtisserie en papier ?
Ne plaisantons pas, Marie. Non, non. Ceci est une espèce de cigarette plus grosse, vous le voyez, et fermée. Au debout. C'est une cigarette 100% naturelle et qui ne contient que de l'herbe.
De l'herbe ?
Oui, Marie. Une herbe merveilleuse qui nous vient de Tunisie, du Maroc, d'Algérie. Une herbe scrupuleusement sélectionnée par des représentants qui la livrent en France, cachée dans des camions ou dissimulée dans le cadre des bains.
Alors Pierre, si je vous suis bien, ces espèces de cigarettes ne seraient pas du tout nocives.
Absolument
alors.
Pas, Marie. Et d'ailleurs, eh bien, nous allons le prouver à nos téléspectateurs. Vous allez en allumer une.
Mais je ne fume pas, Pierre.
Mais ce n'est pas du tabac.
Si vous me dites c'est que ce n'est pas du tout nocif, écoutez.
Voilà. Vous allez voir, vous ne ressentirez aucune nausée et vous n'aurez pas cette odeur désagréable qu'ont les fumeurs impénitents. Voilà. Là, je vous conseille simplement, aspirez la fumée, gardez-la le plus longtemps possible et ne l'expirez qu'à bout de souffle.
Oui.
Alors, est-ce du tabac ?
Non.
Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que vous avez un goût de tabac dans la bouche ? Non. Maintenant, vous allez me demander, Maryse, à quoi ça sert, Pierre ?
Eh
bien, très bonne question, Maryse, et je vous répondrai en vous disant que ça sert absolument à tout. Ça sert à faire le ménage tous les jours sans râler, à supporter votre conjoint, quel que soit son caractère, quelles que soient les années de mariage. Ça sert à supporter les tracas de la vie, les saloperies de l'existence, à subir en somme le quotidien sans éprouver le stress qui l'accompagne. Et je me tourne vers vous, Maryse, et je dis, comment trouvez-vous cette herbe ? Eh bien, elle la trouve bonne, elle la bonne.
Voilà, Jacques Martin, donc.
On ne sait pas sobre.
Bon, faut dire que sur la fin de carrière et tout, il s'est fait un petit peu déborder par brosse à reluire. Monsieur Drucker, quoi.
Oui.
Bon, c'est un petit peu dommage, hein, Drucker qui lui a piqué sa place carrément, quoi.
Souvenez-vous.
Hein, qui lui a piqué sa place en fin de carrière. Bon, bah, c'est vrai, c'était dû à des ennuis de santé de la part du père Jacques. Repose en paix, mon gars.
Juste une chose, l'extrême question qu'on a entendue, ben, c'est une remarque de Daniel Schneiderman qui faisait remarquer que, ben oui, ben, on va parler que de Jacques Martin de l'école des fans, alors qu'il était capable de faire quelque chose de beaucoup plus noir. Si j'introduis Daniel Schneiderman maintenant, c'est pas par hasard, c'est qu'il s'est associé avec les mecs de Gandhi, avec une plateforme de blog, d'Otclear, etc. Mais en tout cas, il vient de lancer arrêtsurimage.net, et l'idée, ben, c'est de faire une émission sur abonnement. Après tout, il y avait la redevance télé. Ben voilà, vous allez, si ça vous intéresse, la première émission sera le 8 janvier 2008, sur abonnement, 30€ annuel maximum. On peut réduire, alors si on prouve qu'on est chômeur, rémiste, voire carrément radin. C'est-à-dire, il faut motiver une lettre comme quoi on est radin, et là on aura peut-être gratuitement l'accès, donc faudra être bon. Donc arrêtsurimage.net, toutes les références seront sur supplémentweekend.tk. Il est 13h03.
Alors je vais essayer d'être rapide, parce que bon, il y a quand même une petite actualité sportive, avec déjà au niveau revue de presse, le nouveau numéro de SoFoot est sorti début du mois, hein, mais enfin bon, comme la semaine dernière on était un petit peu bousculé et que j'étais pas là la semaine précédente, voilà, le nouveau numéro de SoFoot avec Thierry Henry en couverture, qui pour une fois, alors j'espère que c'est que pour une fois, le prix a augmenté, d'habitude c'est 2,90, ça s'est passé à 3,50. Mais c'est parce que ce mois-ci, eh bien, il y a deux magazines en un, il y a SoFoot et à l'intérieur Coupe du monde de rugby oblige, So Rugby, avec la tronche à Sébastien
Hannibal Lecter.
Voilà. Oui, elle est pas mal d'ailleurs.
Et au programme de ce So Foot, alors il y a un guide européen 07-08, c'est-à-dire guide européen des différents championnats, des grands championnats européens, qui vaut son pesant de cacahuètes, faut le dire, hein, quand même. Là, ça vaut le coup, hein, avec tout d'abord deux pages d'introduction et ensuite, eh bien, un détail des différents clubs. Avec à chaque fois, alors bon, bah c'est en colonne, hein, en graphique comme ça, quoi, avec à chaque fois des petites rubriques concernant chaque club, avec donc équipe type, la rumeur à surveiller, fausse promesse, chat noir vu à la télé, des trucs comme
c'est
ça,
sympa,
quoi.
Ça
ouais, alors bon c'est assez délirant comme d'habitude, hein, ça, y a pas de problème. Alors je peux vous en faire une ou deux vite fait. Alors concernant par exemple le Bayern de Munich, quoi, le à surveiller, la fausse promesse, Oliver Kahn veut arrêter sa carrière fin 2008.
Merde. Oui.
Alors, il y a également le pic de la saison, c'est élimination 16e de finale de la Coupe de l'UEFA par Sochaux. Vraiment, et tout est un petit peu de stacabis, c'est assez intéressant. Et ça concerne bien sûr les championnats majeurs. Il y a même le championnat de France.
En plus.
C'est pour vous dire, ouais, en plus.
0-0, 0-0,
après...
0-0, 0-0.
Sinon, après, un article de dossier très intéressant, les grands joueurs font-ils de grands entraîneurs? Ouais, c'est pas mal. Il y a également un truc sur Gordon Strachan, qui vaut son pesant de cacahuètes, sur Pablo Correa, l'entraîneur du Racing de Nancy, qui est actuellement en tête du championnat de France de football, et ainsi que d'autres articles, comme d'habitude. Enfin, c'est toujours très intéressant, hein, c'est SoFoot. Sinon, alors là, ça vaut le coup quand même, tu vois.
Ouh.
Regarde comme c'est épais. Et pourquoi c'est épais comme ça? Parce que c'est le numéro
200,
au bout de 35 ans d'existence.
Wow.
Mad Movie, numéro spécial 200. Alors spécial, pas si spécial que ça, parce que on a toujours les rubriques habituelles, les notules, les previews, les critiques de films déjà sortis, plus les previews des films à sortir. Mais ce qu'il y a en plus, c'est bien entendu, eh bien, tout d'abord l'interview de Jean-Pierre Putters, qui est le créateur de Mad Movies, hein, qui maintenant ne fait plus que la dernière partie, tu sais, cette dernière partie où il parle le dictionnaire de
fantastiques, ouais.
Des films fantastiques. Ensuite, un interview également de Melky. Melky, c'est un dessinateur qui a dessiné un nombre incalculable d'affiches de films ou de pochettes de VHS ou maintenant de DVD, hein, dans son style toujours très caractéristique, hein, ok. Et
les Delta Force et
ouais,
autres.
Ouais, un article sur la VHS.
C'est grand.
Sur la VHS.
Ouais, bien sûr, hein, parce que bon, la VHS, c'est pour Mad Movie, c'est le support inaltérable, on va dire, hein, entre guillemets.
Oui, entre guillemets. Ouais.
Un dossier très intéressant sur les fanzines consacré aux films fantastiques et autres. Et la part du lion, c'est bien sûr
nos 100 films.
Oh là
les
là.
100 films.
On va faire un top 100, tiens.
Top 100, non, quand même pas, quoi. Alors, bon,
il faut qu'ils disent 100 à 5. Ça
ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, la plupart des films sont des films relativement récents. Hein, il n'y a pas tellement de vieux films des années 70, voire des années 60. Ça date vraiment du début de l'apparition de Mad Movie, en fait. Hein. Ceux qui sont, antérieurs.
Ils sont classés par ordre alphabétique et pas de classement.
Non, il n'y a pas de classement. Hein, c'est vraiment. T'as de tout. Et il y a également, en plus de ces 100 films, les 13 réalisateurs fétiches de Mad Movies, avec Shyamalan, avec Alexandre Aja, c'est le seul français, Edgar Wright, Eli Roth, Guillermo del Toro, Balaguerro, James Wan, Neil Marshall, Lucky McKee, Takashi Miike.
Mais attends, c'est que des réalisateurs qui ont participé à Master of Horror, en fait.
Zack Snyder, Rob Zombie, et j'en passe, et des meilleurs, et les rubriques habituelles en fin de magazine, hein, c'est-à-dire les trucs DVD et tout ça, dans ce numéro qui fait quand même 196 pages et qui coûte un tout petit peu plus cher, hein, que d'habitude, puisqu'il coûte 5,50. Voilà.
Oh, c'est pas si cher que ça par rapport à du comic box, par exemple.
Non, ça dépend ce que tu appelles cher.
On parlait.
Il est content, il rigole derrière.
On
parlait en effet.
Mais moi je fume pas.
On parlait de So Rugby juste avant à propos du So Foot du mois de septembre, et c'est vrai qu'on les connaissait pas du tout, hein. C'est vrai que dans le monde du rugby, elles s'affichent vachement moins, hein.
Les femmes des joueurs.
Eh bien, dans le numéro de l'équipe magazine d'aujourd'hui, hein, l'équipe magazine qui sort, que vous achetez en même temps, c'est le supplément de l'équipe du samedi. Eh bien, nous avons les photos de 20 femmes de rugbyman. Alors on va se dire, on va gloser, on va jaser, on va dire, ah mais pourquoi la femme de celui-là n'y est pas, y aurait-il Anguille sous roche, hein. Et ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, quoi, la femme de Sébastien Chabal, eh ben elle est toute petite, hein, mais bon, elle est quand même rigolote, elle est mignonne et tout, il y a pas de problème. Est-ce qu'on remarque également
quelque chose à dire sur ma femme?
Ce qu'on remarque également aussi, c'est que il y a moins de blondes, la proportion de blondes est moins importante que par rapport aux footeux, où il faut vraiment les chercher, les brunes. Voilà, passons un petit peu.
Je peux voir la page? Merci.
Ouais, mais à mon avis, pas touche. Hein.
Il va jaser, je le sens. Alors, de la télé vite fait. Alors bon, je vais faire très vite quand même. Avec tout d'abord, les 59e Emmy Awards, c'est dimanche soir. Dimanche soir sur Série Club, ou alors sur E! Entertainment à 2h du mat. Alors là, c'est un petit peu moins drôle. Ben, c'est normal. Décalage horaire oblige avec Hollywood. Les Emmy Awards, ce sont l'équivalent des Oscars, mais pour la télévision. Alors, vite fait, quelques petites tendances, hein, concernant ces Emmy Awards. Avec ce qui concerne uniquement les séries comiques et les séries dramatiques, parce que bon, c'est comme les Oscars, hein, y a un nombre incalculable de prix, hein, le meilleur décorateur.
Ouais, ça dépasse sa trentaine, je crois. Hein.
Ouais, plus même, hein, je crois. Hein, mais bon, on va retenir juste les plus importants. Alors, commençons par les femmes, avec dans la catégorie meilleure actrice de série comique, sont nominées, et avec de grosses chances, hein, quand même, America Ferrara pour Glee Buddy, Felicity Huffman, qui en a déjà eu un pour Desperate Housewives et qui a déjà été nominé deux fois. Hein, donc c'est les favorites. Meilleur acteur dans une série comique, ça va être le match entre Charlie Sheen, qui l'a déjà eu, et Ricky Gervais, qui l'a pas encore eu, mais c'est normal, c'est parce que c'est un anglais. Et là, il s'agit pas de The Office, il s'agit de Extras. Charlie Sheen, c'est pour mon oncle Charlie, hein. Two and a Half Men.
Très,
Et bien entendu, hein, au niveau de la meilleure série comique, ça va être entre Ugly Betty, mon oncle Charlie, et peut-être L'Outsider de Luxe. Il faut noter également, dans la catégorie série dramatique, alors meilleure actrice de série dramatique, ça pourrait se jouer entre Sally Fields, qui œuvre actuellement dans Brothers and Sisters, qu'on peut voir actuellement à la télé française sur Fox Life. La diffusion a commencé au milieu de le mois d'août en catimini, comme ça, à la place d'ailleurs de mon soap hollandais préféré.
Brothers and Sisters avec Sally Field, mais dont le rôle principal est tenu par Calista Flockhart, dont c'est le retour à la scène, à la télé, hein, après Ally McBeal, et qui compte également dans ses rangs Balthazar Getty, excellent acteur, et bien d'autres. C'est diffusé sur Fox Live, par exemple demain soir, l'épisode 7 et 8, demain à 20h45, sinon les épisodes inédits, c'est le mardi soir. Le mardi soir à partir de 22h20. Alors dans le meilleure actrice de série dramatique, j'ai parlé de Sally Fields, donc qui œuvre dans Brothers and Sisters, mais il y a également Kyra Sedgwick pour The Closer qui pourrait obtenir un rôle. Elle a déjà été nominée 2 fois. Meilleur acteur dans une série dramatique. Alors là, en principe, gros favori, c'est James Gandolfini pour Les Sopranos, vu que la saison finale s'est achevée, c'est fini. Ça a été un des pics de la télé américaine, hein, le dernier épisode des Sopranos. Et Hugh Laurie avec Dr House, il aura peut-être un petit peu de mal. Enfin bon, hein, pour la performance de Hugh Laurie, moi je préfère. De toute façon, Gandolfini a déjà obtenu le Emmy, donc ce serait un petit peu logique que Hugh l'ait. Mais enfin bon, James Gandolfini peut-être n'est pas partageur, tout simplement. Et dans la catégorie meilleure série dramatique, Les Sopranos, Heroes, bien sûr. Les Sopranos qui ont obtenu 15 nominations, hein, pour ces Emmy, hein. Ça veut dire que
pour cette
année confondue.
Non, pour cette année, hein. Ça prend en ligne de compte les séries qui sont sorties aux États-Unis du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, hein. À l'exception de tout autre, hein. Donc, voilà, quoi. La rediff. Si vous trouvez que c'est trop tard, hein, demain soir à 2h du mat sur Série Club ou sur E! Entertainment, qui propose d'ailleurs avant 2h du mat, à partir de 10h du soir déjà, une émission qui s'appelle Avant le tapis rouge, avec les dessous, machin et tout, c'est-à-dire 4h avant E! Entertainment est déjà sur place pour vous parler des à côté.
En direct,
de ce qui va se passer pendant la cérémonie.
Attention, hein, cette émission est anglophone, je suppose.
Non, c'est la version française. Hein.
Ah oui, carrément.
Ah oui, c'est la version française. Enfin, ça va être les Anglais, puis alors avec deux idées en studio qui font un doublage un petit peu pourri, hein, comme d'habitude.
Ouais, le buddy doubling.
ouais. Avec les faux amis et tout le bordel. Enfin bon, j'en passe des meilleurs, hein, les erreurs de traduction, quoi. C'est rediffusé par contre lundi soir, lundi prochain, à 20h50 sur Série Club, mais dans une version légèrement raccourcie, vu qu'elle ne fait plus qu'1h40. Donc tout ça, c'est les 59e Emmy Awards. Sinon, on a quand même des nouveautés, des inédits, hein, et là ça vaut le coup, avec tout d'abord mon favori, hein, ma série. Il n'y a qu'un seul inédit d'ailleurs que j'ai repéré, vraiment qui peut-être va valoir le coup et qui s'affiche peut-être comme étant le successeur et quelque chose qui lorgne un petit peu sur le succès des Sopranos, c'est Brotherhood, qui est sorti à l'été 2006, l'été dernier, sur la chaîne Showtime, hein, Showtime qui est vraiment l'époque était le concurrent direct de HBO en matière de séries novatrices.
En termes de budget, en termes d'indépendance, parce que eux aussi ils sont que sur le câble, et c'est vrai qu'ils avaient bien dépassé HBO par moment en termes de créativité.
Hein, voilà. Quoi. Alors Brotherhood, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de deux frères, hein, Brotherhood de la fraternité, deux frères qui vont s'opposer pour le contrôle d'une ville. Providence, en l'occurrence, Providence, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a 7 ou 8, hein, qui s'appellent, les villes qui s'appellent Providence, c'est là, il s'agit d'une ville dans le Massachusetts. L'un de ces frangins est un policier, c'est Tommy Caffey. Alors, ce sont deux frangins irlandais. Alors là, ça parle un petit peu de la noria irlandaise, qui est très très nombreuse quand même aux États-Unis.
On note, si les deux frangins sont irlandais, c'est un peu obligé, sinon ils seraient demi-frères.
Alors Tommy Caffey donc est le politicien donc, hein, qui aimerait bien prendre et garder le contrôle de cette ville de Providence, interprété par Jason Clarke qu'on a vu dans Stingers, qu'on a vu dans Farscape également, et l'autre c'est James Isaac qui joue le rôle de Mike Caffey, qui lui est un gangster et qui donc veut également prendre le contrôle de la ville, mais pas pour les mêmes raisons. Et donc ça va raconter l'histoire de la confrontation entre ces deux frangins. James Isaac qu'on a vu d'ailleurs dans le rôle de Malfoy, Harry Potter. Il y a également au casting de cette série Brotherhood, Frank Ridley, Al Sapienza, Fionnuala Flanagan, il fallait quand même une Irlandaise, Annabeth Gish et Ethan Embry qui avait joué dans Dragnet dans la saison 1. Eh ouais,
la
ouais.
toute première saison 1 le remake.
Saison. Non, l'autre saison 1.
Bah, dans la saison 1 de Dragnet avec Ed O'Neill. Quoi.
Ouais, le remake quoi.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah, bah, attention. Non, mais là, sinon il aura un peu de mal à mon avis. Je pense que...
alors, de la loi.
C'est écrit par un scénariste qui est complètement inconnu, qui est assez jeune, hein, qui s'appelle Blake Meisters. Et une des particularités intéressantes de cette série, c'est que chaque épisode... fait référence à une citation de la Bible, à savoir que chaque épisode est titré comme étant une citation de la Bible. Quand on sait que bon, les Irlandais sont très catholiques et très croyants en général, on peut se dire que ça a dû remuer dans les brancards l'autre côté de l'Atlantique en ce qui concerne déjà la représentation de la communauté irlandaise et de plus eh bien les nombreuses allusions à la Bible et bien entendu à aux croyances judéo-chrétiennes, à la chrétienté et au catholicisme. Alors très peu d'épisodes, 11 épisodes de la première saison et quand Showtime a vu que ça marchait du feu de Dieu et tout parce que bon, au départ ils y croyaient pas trop, ben ils se sont dit allez, on va recommander 10 épisodes pour la saison 2 et ça a l'air de bien faire un carton. En tout cas, c'est une série à suivre. Ce sera à partir de vendredi prochain sur 13e rue à 22h30, un seul épisode. Bon bah comme ça bah, ça nous laissera le temps chaque semaine de déguster Brotherhood donc sur 13e rue vendredi prochain à 22h30. Sinon au niveau des inédits, je vous ai repéré également Vanished. Alors c'est complètement passé justement Vanished, le titre veut tout dire hein.
Disparition.
C'est passé là, c'est disparu carrément. T'entends pas parler et tout. C'est l'histoire de la disparition d'une femme de sénateur, du sénateur de Géorgie qui va faire appel à deux enquêteurs, enfin un enquêteur et une enquêtrice du FBI pour essayer de retrouver sa femme. Alors la série a été annulée au bout de pas mal d'épisodes quand même, mais n'a pas vraiment convaincu parce que si au départ eh bien ça a l'air bien ficelé, au fur et à mesure eh bien ça se dilue quand même hein, les intrigues et les différents rebondissements et donc ça a un petit peu déplu de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui fait que la série a été annulée avec Gail Herold, avec Ming-Na. Ming-Na c'est une des Asiatiques qu'on a pu voir dans Urgence. La première Asiatique dans Urgence, c'était Ming-Na. Hein. Il y a également John Alan Nelson et Joan Kennedy. Ce sera diffusé, Joan Kelly, pardon. Ce sera diffusé demain sur la chaîne Teva à partir de 20h50. Il y a également une autre série qui, à mon avis, n'est pas inédite. Je crois qu'elle avait déjà été diffusée, mais enfin, peut-être me trompe-je. C'est la série qui est diffusée juste après Prison Break sur M6 le lundi soir, qui s'appelle The Inside, dans la tête du tueur. Il me semble que ça avait déjà été diffusé comme ça en catimini.
Je crois
en deuxième,
que sur W9 ça a été diffusé.
En,
hein,
en W9, il me semble. Voilà, ouais. C'est ça. Et bon, bah j'ai pu redécouvrir carrément hein, cette série à partir de l'épisode pilote diffusé jeudi dernier. Et vraiment, ça a l'air assez intéressant. C'est très glauque, très sombre. Hein, ça raconte l'histoire de profileurs dans une unité spéciale. Bon, le terme commence à être archi rebattu, archi connu, mais la façon dont c'est traité et le fait que c'est vraiment l'ambiance très glauque, hein, c'est du moins 12, hein, c'est donc pas pour les gosses du tout, hein, il y a vraiment quelques images qui sont bien trash quand même, hein, là pour une série ils ont fait assez fort quand même, c'est interprété par Rachel Nichols, donc une nana qui débarque dans une unité de profileurs qui a été choisie par le patron Peter Coyote. Parce que eh bien la précédente profileuse qu'elle remplace eh bien s'est suicidée en employant les méthodes d'un serial killer qui cherche à traquer et qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus et donc la précédente qui s'est suicidée en s'arrachant la peau du visage plus la peau des mains et tout, enfin t'imagines le truc.
Non,
et tout.
Je peux pas. Bon, j'ai pas le temps, mon esprit voilà. Est ailleurs.
Non, parce qu'on le voit en plus hein. Et il l'a fait. Tout ça dans The Inside donc qui est diffusé juste après Prison Break, donc en deuxième partie de soirée vers 22h50. Je sais pas si vous avez vu les deux premiers épisodes de la saison de Prison Break. Bon, le premier on l'avait déjà vu hein, il avait été diffusé
oui c'était
tout de suite après la fin de la première
oui oui
hein, donc c'était pas nouveau, mais le deuxième bon ok bah le deuxième, le soufflet retombe un petit peu, c'est un petit peu dommage, hein, surtout en ce qui concerne la cavale des deux frangins. Les histoires parallèles, bon, T-Bag est toujours excellent, je trouve, hein, y a pas de problème.
C'est qui T-Bag alors?
Eh ben, T-Bag, c'est le
psychopathe?
Ouais, le psychopathe.
Celui qui se fait recoudre la main?
Celui qui fait faire recoudre la main. Moi, c'est complètement invraisemblable, mais c'est pas grave, hein, ça marche quand même très très bien.
Moi, j'adore Fichtner, le personnage de l'enquêteur.
William Fichtner aussi, vraiment très très bon. Hein, de toute façon, quoi, c'est un petit peu ce qui sauve quand même cette, ce début de deuxième partie de deuxième saison de Prison Break. Voilà. Sinon, on parle de saison 2. Des saisons 2, il y en a pas mal, hein, qui vont démarrer comme ça cette semaine. Elle va commencer demain soir avec Sleeper Cell. Alors ça, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas la possibilité de regarder, j'ai pas cette chaîne là, mais c'est une chaîne, c'est une série qui est on n'arrête pas d'en parler, on dit que c'est vraiment très très bien et tout. C'est un petit peu l'équivalent de 24 mais avec la frime en moins. Ça s'appelle Sleeper Cell donc et c'est l'histoire d'agents qui sont infiltrés, hein, une infiltration d'agents d'agents dormants, donc Sleeper Cell, c'est cellule dormante en fait, c'est le titre original, la traduction littérale, et qu'on met en branle, qu'on met en action quand eh bien on décide de casser l'action de l'ennemi, quoi. Et c'est magnifiquement interprété, ça c'est pas moi qui le dis, mais enfin c'est ce que j'ai pu lire. Donc Sleeper Cell, c'est sur TPS Star à partir de demain soir, début de la saison 2 à 23h25. Sinon, le retour de Bones saison 2 sur M6, c'est vendredi prochain à 20h50 pour les inconditionnels de David Boreanaz et les inconditionnels de Emily Deschanel, je sais pas, il y en a peut-être. Hein. Et il y a également la deuxième saison de Supernatural qui démarre sur TF6 lundi à 20h50. Supernatural, c'est pas toujours top, mais il y a une bonne ambiance, je trouve, dans cette série. Hein. Il y a des petits trucs et des petites trouvailles comme ça qui sont assez intéressantes. Et j'arrête pas d'Aleki et Jensen Knuckles sont pas complètement nuls, hein, dans leur rôle de deux frangins. Sinon, la bonne nouvelle quand même, c'est la saison 6 inédite, donc de Preuve à l'appui, qui sort enfin sur nos écrans et diffusée par TF1, bien sûr. Et ce sera à partir de lundi prochain, mais par contre en troisième partie de soirée à 23h20.
Mais alors, Preuve à l'appui, c'était une série créée par Tim Kring.
Créée par Tim Kring, donc le créateur de Heroes. Sinon, dans un registre complètement différent, mais ça se regarde quand même, il faut dire. Hein. Après, tu vas faire la sieste ou bien tu fais même la sieste pendant des fois.
Ah, Popstar.
Non, pas du tout. C'est Inspecteur Barnaby.
Ah, oh non, ça c'est excellent.
Saison 9. Ouais, mais vu comme c'est programmé dimanche à 13h25 sur France 3, tu vois, c'est l'heure de la sieste.
Bah oui, mais moi j'ai un scope numérique.
13h25, c'était arrêté sur image. Oh merde.
Mais ça y est plus. Maintenant c'est sur le net, voilà. Donc c'est en décalé comme on veut. Alors, ils remettent tous les anciens
épisodes. Épisode inédit donc d'Inspecteur Barnaby demain sur France 3 de la saison 9 avec un nouveau partenaire pour John Nettles, l'inspecteur Barnaby. Le détective Ben Jones, interprété par Jason Hughes.
Ah oui, c'est vrai qu'il a viré l'autre parce qu'il sortait avec sa fille.
Mais ils sont tous sortis avec sa fille. Le précédent aussi, Daniel Cazet, le premier, là, pareil, quoi. Et ouais. Et je termine avec le film de la semaine. Il y en a qu'un, il faut regarder celui-là, il n'y a pas de problème, hein, parce que bon... c'est pas un film qui aurait pu figurer dans les 100 meilleurs. Il y a Booba Otep dans les 100 films.
Ah ouais.
Ah oui, bien. Ah ouais, quand même, merde. Attends, ouais, faut pas déconner quoi. Il y a des limites à tout quoi. c'est sur Sci-Fi jeudi prochain, 20h45. The Man with the Screaming Brain, un film de Bruce Campbell avec Bruce Campbell de 2005.
Refais le titre pour voir.
The Man with the Screaming Brain. Avec Bruce Campbell donc, il y a également Ted Raimi, hein, que on connaît, hein, parce que bon bah c'est le frangin de Sam et
qui est lui aussi un pote à Bruce Campbell. Donc
C'est des potes et puis que Ted Raimi, on l'a vu dans, il joue un rôle récurrent dans Xena, dans Hercule, enfin bon voilà. Et Stacy Keach, bien sûr. Alors l'histoire d'un homme d'affaires assassiné à qui un savant fou remet un cerveau, mais un cerveau de chauffeur de taxi. Voilà pour l'histoire donc de ce film diffusé jeudi prochain sur Sci-Fi à 20h45, The Man with the Screaming Brain. C'est le film de la semaine. Et c'est tout pour aujourd'hui.
C'était le Supplément Week-end en direct sur Radio FMR et en différé sur supplémentweekend.tk sans accent, sans tirer, sans espace. suppléantweekend.tk en site web. Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris cette émission en cours de route, je te prie.
Oui, tout à fait. Nous avons eu l'intervention de Kinou par téléphone. Nous avons eu de la bande dessinée d'après Jack London, du Malgré et du Fred Bézian. Du film de Partouze, on a eu un top 5 d'action ciné, les nécros de Jacques Martin et de Super Nana, la 200ème de Mad Movies de la meuf de Rugbyman, de la cérémonie TV avec les Emmy et du générique de Prison Break judicieusement placé par Xavier.
Nom d'un petit chihuahua. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos articles, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplément weekend, tout attaché, sans tirer, sans accent, .tk. La suite des programmes sur Radio FMR, de suite c'est du sport, et à partir de 15h, c'est un direct de Ramonville pour le festival de rue. Et puis voilà. Oui, Duce.
Ouais, ouais, on va faire chauffer le web avec la question. Répondez nombreux si vous avez vu Prison Break jeudi dernier. Alors, il y a une question que je me pose. Bon, je connais pratiquement la réponse, on va dire. Mais est-ce que vous pensez que la petite amie avocate qui cherche à faire sortir Lincoln de Toll, est-ce qu'elle est vraiment morte? Allez, allez-y, faites chauffer vos nets, faites chauffer vos PC, et répondez. Sur le site Super en Weekend, on verra samedi prochain ce qu'il en est. À ton avis, elle est morte?
Bah, j'étais un peu sur le cul quand elle est morte, mais ouais, peut-être, oui, ou peut-être ou pas.
Attention, artifice, on ne voit pas le cadavre.
Bon, attention, vous nous laissez une petite heure le temps qu'on mette en route le billet. Parce que là, c'est fait à la bonne franquette. Cette émission n'est absolument pas préparée, il n'y a rien. La semaine prochaine, vendredi 21 septembre, à Album, Bézian dédicacera les garde-fous aux éditions Delcourt. On en a parlé dans cette émission. Même jour, même lieu, Lucie Chenu, directrice de l'anthologie Procréation aux éditions Glyph et Glyph Collection Imaginaire, sera avec Estelle Valls de Gomis et Pierre-Alexandre Sicard et l'illustrateur Sébastien Berm. C'est toujours à la librairie Album rue Pargaminière. Voilà. Fabrice Laloux et Fabrice Châle, auteur de Il était une fois la guerre des étoiles, la galaxie Georges Lucas aux éditions Dark Star. Seront vendredi 28, toujours Album, et on espère les avoir prochainement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, peut-être même fréquence, en tout cas sur le même site internet, et nous, on se donne rendez-vous, et d'ici là, nous, on va prendre notre petit repas et tout le reste au soleil.
On va bouffer.
Voilà, 13h29, je vous laisse la suite avec du sport. A ciao, bye. Et so long, Super Nana. Je t'ai bien aimé, à plus.